Nous poursuivons donc aujourd'hui notre étude sur la théologie réformée systématique. Nous en sommes à la leçon 23 et c'est la cessation de la révélation spéciale. Donc, au cours des siècles, il y a eu une controverse concernant la compréhension de la nature des dons spirituels et de leur continuation dans le temps. Alors, la controverse a porté un nom, c'est celui du cessationnisme versus le continuationnisme. Alors, on va regarder un petit peu les principaux arguments utilisés par les cessationnistes, ceux qui disent que les dons ont cessé, et les continuationnistes, ceux qui disent que les dons continuent jusqu'à ce jour. Alors, j'ai trouvé un article qui était très bien écrit dans le site web encyclopedia.pub qui présente bien la question du cessationnisme versus le continuationnisme. Alors, dans le christianisme, le cessationnisme est la doctrine selon laquelle les dons spirituels tels que le parler en langue, la prophétie et la guérison ont cessé avec l'âge apostolique. Ceci est généralement opposé au continuationnisme, qui enseigne que le Saint-Esprit peut accorder les dons spirituels à des personnes autres que les 12 apôtres originaux, et que cela peut se faire à tout moment. Alors, les cessationnistes croient que lorsque le canon de l'Ancien Testament s'est fermé à Malachie, pendant les 400 années suivantes jusqu'à Jean le Baptiste, les dons avaient cessé. De même, lorsque le canon du Nouveau Testament s'est terminé, les dons ont cessé. Donc, les cessationnistes qu'on pourrait qualifier de classiques affirment que les dons de signes tels que la prophétie, la guérison et le parler en langue ont cessé avec les apôtres et l'achèvement du canon des Écritures. Ils n'ont servi que de rampe de lancement pour la diffusion de l'Évangile, comme des affirmations de la révélation de Dieu. Cependant, ces cessationnistes croient que Dieu fait encore occasionnellement des miracles aujourd'hui, tels que des guérisons ou des conseils divins, tant que ces miracles n'accréditent pas une nouvelle doctrine ou n'ajoutent pas au canon du Nouveau Testament. Ce qu'il convient de souligner, c'est que l'allocation cessationniste classique des miracles, de la guérison et de la direction divine est différente de celle de la continuation. Un cessationniste peut permettre la présence de la direction surnaturelle de Dieu sur l'Église, mais pas par l'intermédiaire de prophètes ou de guérisseurs spécialement choisis. Dans cette vue, des miracles et des guérisons occasionnelles, mais à la suite d'une prière et non à la suite d'un travail de prophète ou de guérisseur qui serait spécialement choisi. Alors, il y a eu des leaders qui ont défendu leur position respective. Alors, sur le côté des cessationnistes, il y a eu Richard Gaffin, John F. MacArthur et Daniel B. Wallace sont peut-être les cessationnistes classiques les plus connus. Alors, on va regarder un petit peu à travers l'histoire comment tout cela s'est manifesté. Historiquement, les traditions catholiques, méthodistes, moraves et pentecôtistes du christianisme ont prêché le continuationnisme, tandis que les baptistes, dispensationalistes, les confessionnels réformés et les presbytériens ont en grande partie des traditions et aussi une grande partie des traditions anglicanes ont été cessationnistes. Les luthériens se sont toujours tenus à une position qu'on pourrait qualifier de médiane, donc un continuationnisme on pourrait dire ouvert, mais prudent, qui considère que la gamme complète des dons spirituels n'est pas donnée exclusivement par l'intermédiaire des apôtres canoniques du 1er siècle, mais aussi pas nécessairement promis en tout lieu et à tout moment dans l'histoire de l'Église. Alors bien sûr, tout cela apporte des vues qui sont divergentes. Alors on voit très bien ce qu'on vient de nommer, qu'il y a comme trois grands camps, trois grandes divisions entre les chrétiens sur la compréhension de cela. Alors ces trois grands camps qui sont divisés sur une seule question, et il existe un éventail de points de vue qui relève des trois grandes positions. Alors on pourrait dire les trois grandes positions sont les suivantes. Le cessationnisme, ceux qui ont une position ouverte, c'est-à-dire qui sont des continuationnistes, mais prudents. Et il y a la troisième position qui est celle des pentecôtistes charismatiques et ceux qu'on appelle la troisième vague. Alors, en général, le milieu des traditions réformées et une bonne partie du segment dispensationnel de l'Évangile ont adopté une position cessationniste. Ceux qui sont ouverts, on en a parlé tantôt, c'est les luthériens, qui eux, c'est une position un peu mitoyenne, et il y a l'autre position, à l'autre extrême. Donc les deux extrêmes, c'est vraiment les cessationnismes classiques purs et les pentecôtistes et charismatiques. Alors les dénominations pentecôtistes classiques, ainsi que des groupes, principalement au sein du catholicisme, et des corps professants à tendance libérale qui trouvent dans leur origine dans le mouvement du renouveau charismatique des années 60 et 70. Ce qu'on appelle la troisième vague fait référence au mouvement de renouveau des années 80, tel qu'inventé par C. Peter Wagner. Alors, en général, on peut dire que les positions sont très bien campées et le dialogue est parfois très difficile entre les parties à cause des contradictions. Alors, on va ici utiliser un article du pasteur Thomas Schreiner, qui est professeur au Southern Baptist Theological Seminary à Louisville, Kentucky. Alors, l'article est un article qui est écrit en anglais et qui s'intitule « Why I am a cessationist ». Autrement dit, si on le traduit en français, c'est « Pourquoi je suis un cessationniste ». Alors, Thomas Schreiner défend la position comme de quoi qu'il est cessationniste et il explique avec un peu de détail pourquoi il le fait. Alors, bien entendu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié l'article et je l'ai fait traduire par Google Translate. Et je vais vous lire un peu ce que lui présente comme étant sa position sur ce sujet-là. Alors voici ce qu'il dit. Il dit « Au fil des années, j'ai acquis la conviction que certains des soi-disant dons charismatiques ne sont plus donnés et qu'ils ne font pas partie de la vie de l'Église. Je pense en particulier aux dons d'apostolat, de prophétie, de langue, de guérison et de miracle, et possiblement aussi le discernement des esprits. Pourquoi quelqu'un penserait-il que certains des dons ont été retirés? Je soutiendrai qu'une telle lecture correspond le mieux à l'Écriture et à l'expérience. L'Écriture a la priorité sur l'expérience car c'est l'autorité finale, mais l'Écriture doit également être en corrélation avec la vie et nos expériences devraient nous inciter à réexaminer si nous avons bien lu la Bible. Aucun de nous ne lit la Bible dans le vide. Et par conséquent, nous devons revenir aux Écritures à plusieurs reprises pour nous assurer que nous les avons lues fidèlement. Alors ici, il fait, commence une nouvelle partie de son raisonnement, et c'est celui, le raisonnement, il intitule le paragraphe « Fondation des apôtres et des prophètes ». Alors, on continue la lecture de son document. Paul dit que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. On peut lire cela dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Je conclus que tout ce que nous devons savoir pour le salut et la sanctification nous ont été donnés par l'enseignement des apôtres et des prophètes, et que cet enseignement se trouve maintenant dans les Écritures. Maintenant que Dieu a parlé dans les derniers jours par l'intermédiaire de son Fils, comme on peut le voir dans Hébreux chapitre 1, verset 2, nous n'avons pas besoin d'autres mots de sa part pour expliquer ce que Jésus-Christ a accompli dans son ministère, sa mort et sa résurrection. Au lieu de cela, nous devons lutter pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes par les apôtres et les prophètes tels que décrits dans Jude 3. Autrement dit, nous n'avons plus d'apôtres comme Paul, Pierre et Jean. Ils nous ont donné l'enseignement faisant autorité par lequel l'Église continue de vivre à ce jour. Et c'est le seul enseignement dont nous aurons besoin jusqu'au retour de Jésus. Nous savons que de nouveaux apôtres n'apparaîtront pas, puisque Paul dit spécifiquement qu'il était le dernier apôtre, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8. Et lorsque Jacques, frère de Jean, mourut, comme on peut le lire dans Actes 12, verset 2, il n'a pas été remplacé. Les apôtres, au sens technique, sont limités à ceux qui ont vu le Seigneur ressuscité et ont été mandatés par lui. Et personne, depuis les temps apostoliques, ne correspond à de tels critères. Les apôtres ont été nommés uniquement pour les premiers jours de l'Église, pour établir la doctrine orthodoxe. Il n'y a donc aucune justification pour dire qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui. En effet, si quelqu'un prétend être apôtre aujourd'hui, nous devrions nous en préoccuper, car une telle prétention ouvre la porte à de faux enseignements et à des abus d'autorité. Si le don d'apostolat a pris fin, alors d'autres dons peuvent avoir cessé également, puisque le fondement a été posé par les apôtres et les prophètes, comme nous l'avons vu dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je conclus de ce point que le don de prophétie a également pris fin, car les prophètes identifiés ici sont du même type que ceux mentionnés ailleurs. Les premières églises n'avaient pas le canon complet des Écritures pendant un certain temps, et donc un ministère prophétique faisant autorité et infaillible était nécessaire pour jeter les bases de l'Église à ses débuts. L'argument biblique le plus important contre ce que je dis est l'affirmation selon laquelle la prophétie du Nouveau Testament diffère de la prophétie de l'Ancien Testament. Car certains disent que la prophétie de l'Ancien Testament est sans faille, mais que la prophétie du Nouveau Testament est mélangée à l'erreur. Mais l'idée que les prophètes du Nouveau Testament pourraient faire des erreurs n'est pas convaincante pour plusieurs raisons, non moins trois. La première, c'est que le fardeau de la preuve incombe à ceux qui disent que la prophétie dans le Nouveau Testament est d'une nature différente de la prophétie dans l'Ancien Testament. Les prophètes dans l'Ancien Testament n'étaient considérés comme des prophètes de Dieu que s'ils étaient infaillibles. Nous pouvons lire cette affirmation-là dans Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 22. Et la même chose est presque certainement vraie dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, l'avertissement de juger les prophètes, les prophéties au lieu des prophètes, comme on lit dans 1 Corinthiens 14, verset 29 à 32 et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 et 20, est souvent invoqué pour montrer que le don est différent dans le Nouveau Testament. Mais cet argument n'est pas convaincant, car la seule façon de juger les prophètes dans les deux testaments est par les prophéties. Nous savons seulement que les prophètes ne viennent pas de Dieu si leurs prophéties sont fausses ou si leurs paroles contredisent l'enseignement des Écritures. Troisièmement, nous n'avons aucun exemple d'un prophète du Nouveau Testament qui s'est trompé. Agabus ne s'est pas trompé en prophétisant que Paul serait lié par les Juifs et livré aux Romains. Dire qu'il s'est trompé demande plus de précision que ne justifie les prophéties. De plus, après l'arrestation de Paul, il a fait appel aux paroles d'Agabus, disant qu'il avait été livré aux Romains par les Juifs. Il est donc clair qu'il ne pensait pas qu'Agabus avait fait une erreur. Agabus a prononcé les paroles du Saint-Esprit, telles que nous le voyons dans Actes 11, verset 28 et Actes 21, verset 11. Nous n'avons donc aucun exemple dans le Nouveau Testament de prophètes dont les prophéties étaient mêlées d'erreurs. Certains objectent que ma vision de la prophétie est hors de propos, car il y avait des centaines et des milliers de prophéties à l'époque du Nouveau Testament qui ne sont jamais entrées dans le canon. Cette objection ne convainc pas, cependant, car la même chose était vraie dans l'Ancien Testament. La plupart des prophéties d'Élie et d'Élisée n'ont jamais été écrites ou inscrites, ou nous pouvons penser aux 100 prophètes épargnés par Abdias, comme on peut le lire dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 4. Apparemment, aucune de leurs prophéties n'était inscrite. Néanmoins, les prophéties étaient toutes complètement vraies et exemptes d'erreur, car autrement, elles n'auraient pas été des prophètes. Le même principe s'applique aux prophéties des prophètes du Nouveau Testament. Leurs paroles ne sont pas enregistrées pour nous, mais s'ils étaient vraiment des prophètes, alors leurs paroles étaient infaillibles. Ce que certaines personnes appellent aujourd'hui des prophéties sont en fait des impressions de Dieu. Il peut utiliser des impressions pour nous guider, nous conduire, mais elles ne sont pas infaillibles et doivent être testées par les Écritures. Nous devrions également consulter des conseillers avisés avant d'agir sur de telles impressions. Il dit « J'aime mes frères et sœurs charismatiques, mais ce qu'ils appellent prophétie aujourd'hui n'est pas vraiment le don biblique de prophétie. Les impressions données par Dieu ne sont pas la même chose que les prophéties. » Alors là, ici, il vient prendre un nouveau paragraphe, il veut parler de la question des langues. Alors, le paragraphe s'intitule « Qu'en est-il des langues? » Le don des langues est une question plus difficile. Dans Actes 2, verset 1 à 4, Actes 10, verset 44 à 48, et Actes 19, verset 1 à 7, ce don signifie que l'âge d'accomplissement est arrivé où les promesses de l'Alliance se réalisent. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1 à 5, et Actes 2, verset 17 à 18, suggèrent également que les langues interprétées ou comprises sont équivalentes à la prophétie. Il semble donc que la prophétie et les langues soient étroitement liées. Si la prophétie est décédée, alors les langues ont probablement pris fin également. De plus, il ressort clairement des Actes que le don implique de parler en langue étrangère, comme on peut le voir dans les Actes 2. Et Pierre souligne, dans le cas de Corneille et de ses amis, que les gentils ont reçu le même don que les Juifs. Il n'est donc pas plus convaincant de dire que le don dans 1 Corinthiens, dans le passage de 1 Corinthiens 12 à 14 est d'une nature différente, c'est-à-dire qu'il serait des déclarations extatiques. Le mot « langue » dans le grec « glossa » désigne un code linguistique, un langage structuré, et non pas aléatoire et à vocalisation libre. Lorsque Paul dit que personne ne comprend ceux qui parlent en langue parce qu'ils prononcent des mystères, il ne suggère pas que le don est différent de ce que nous trouvons dans les Actes. Ceux qui entendaient les langues dans les Actes comprenaient ce qui était dit parce qu'ils connaissaient les langues que parlaient les apôtres. Si personne ne connaît la langue, alors le locuteur de la langue prononce des mystères. Ni le passage de 1 Corinthiens 13, verset 1, alors qu'on mentionne la langue des anges, soutiennent l'idée que le don des langues consiste en des paroles extatiques. Paul s'engage dans l'hyperbole dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Il exagère clairement en se référant au don de prophétie, 1 Corinthiens 13, 2, car personne qui prophétise ne connaît tous les mystères et toute connaissance. Je crois que ce qui se passe dans les cercles charismatiques aujourd'hui, concernant les langues, est similaire à ce que nous avons vu avec la prophétie. Le don est redéfini pour inclure la vocalisation libre, puis les gens prétendent avoir le don décrit dans les Écritures. Ce faisant, ils redéfinissent le don pour s'adapter à l'expérience contemporaine. Les langues contemporaines sont-elles donc démoniaques? Je ne pense pas. Je suis d'accord avec G.I. Packer que l'expérience est plus une forme de relaxation psychologique. Alors, il va changer de sujet encore une fois. Il va parler maintenant des miracles et des guérisons. Voici ce qu'il dit sur les miracles et les guérisons. Qu'en est-il des miracles et des guérisons? Premièrement, je crois que Dieu guérit encore et fait des choses miraculeuses aujourd'hui. Et nous devrions prier pour cela. Les Écritures ne sont pas aussi claires à ce sujet, et donc ces dons pourraient exister aujourd'hui. Pourtant, la fonction première de ces dons était d'accréditer le message de l'Évangile, confirmant que Jésus était à la fois Seigneur et Christ. Je doute que le don des miracles et des guérisons existe aujourd'hui, car il n'est pas évident que les hommes et les femmes de nos églises aient de tels dons. Certes, Dieu peut guérir et guérit parfois, mais où sont les gens avec ces dons? Les allégations de miracles et de guérisons doivent être vérifiées, tout comme les gens ont vérifié la guérison de l'aveugle dans Jean chapitre 9. Il y a ici une sorte de scepticisme bibliquement justifié. Maintenant, Dieu pouvait-il, dans de situations missionnaires de pointe, accorder des miracles, des signes et des prodiges pour accréditer l'Évangile comme il l'a fait au temps apostolique? Oui, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir ces dons comme une caractéristique régulière de la vie continue de l'Église. Si les signes et les prodiges des apôtres étaient revenus, nous verrions les aveugles recouvrer la vue, les boiteux marcher et les morts ressuscités. Dieu guérit aujourd'hui, parfois de façon spectaculaire, mais la guérison du rhume, de la grippe et d'autres problèmes d'estomac et de dos ne sont pas dans la même catégorie que les guérisons trouvées dans les Écritures. Si les gens ont vraiment le don de guérison et de miracle aujourd'hui, ils doivent le démontrer en accomplissant les types de guérison et de miracles que l'on trouve dans la Bible. Et il termine par un argument qui est apporté par les continuationnistes qui disent « Et Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 12, ne contredit-il pas votre point de vue? » Ils considéreront une objection à l'idée que les certains dons ont cessé. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 12, « N'enseigne-t-il pas que les dons durent jusqu'au retour de Jésus? » Certes, ce texte enseigne que les dons pourraient durer jusqu'au retour de Jésus. Il n'y a aucun enseignement définitif dans la Bible qu'ils ont cessé. On pourrait même s'attendre à ce qu'ils durent jusqu'à la seconde venue. Mais nous voyons des allusions d'Éphésiens chapitre 2, verset 20 et d'autres textes que les dons ont joué un rôle fondamental. Je conclus donc que 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 12 permet mais n'exige pas que les dons continuent jusqu'à la seconde venue. Et les dons, tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui, ne correspondent pas à la description biblique de ces dons. Pour des raisons comme celle-ci, les réformateurs et la plupart de la tradition protestante jusqu'au XXe siècle croyaient que les dons avaient cessé. Je conclus que les Écritures et l'expérience confirment leur jugement sur la question. Alors, voici ce que ce pasteur a écrit concernant ces choses. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que j'ai pris connaissance que au cours des dernières années, s'est développé un mouvement aux États-Unis où on surtout dans les milieux pentecôtistes, où l'on enseigne que le don d'apostolat est revenu. Autrement dit, que les apôtres, après leur décès, il y a eu d'autres apôtres après, et que le don d'apôtre se continue jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est dangereux, comme on l'a mentionné un petit peu dans la leçon, ça ouvre la porte à des erreurs et à des abus d'autorité, parce que nous croyons définitivement que Paul était le dernier apôtre, qu'il n'y en a pas eu après. Alors, ça, c'est des choses qui se produisent dans le milieu, surtout charismatique aux États-Unis, charismatique pentecôtiste. Alors, il faut avoir gardé l'œil ouvert, parce que ces choses, automatiquement, vont finir par atteindre nos églises locales ici, au Québec, au Canada. Et il faut, je pense que nous devons, comme chrétiens, d'approfondir un peu notre connaissance concernant le sécessionnisme et le continuationnisme, connaître les arguments des deux parties, et surtout prendre position nous-mêmes et être conséquents un petit peu avec nos positions, être capable de les défendre avec intelligence. Alors, l'application que je fais pour cette brève étude sur le sécessionnisme et le continuationnisme, l'application que je fais, autrement dit, qu'est-ce que ça devrait changer dans nos vies? Alors, si on veut bien comprendre cette controverse, nous devons chercher à prendre position courageusement, tout en demeurant très collé aux Saintes Écritures, car ces choses ont un grand impact pratique dans la manière de vivre nos cultes au Seigneur. Alors, prions, et informons-nous sérieusement sur ce sujet, et surtout, cherchons à être cohérents. De très bons ouvrages ont été écrits sur le sujet en français, en anglais. Alors, ce n'est pas les outils qui manquent. Alors, ne soyons pas paresseux et cherchons à connaître la position, à établir notre propre proposition en se basant sur les Écritures et sur les écrits d'hommes que nous croyons fidèles aux Écritures. Alors que le Seigneur nous donne de la sagesse et de l'amour en faisant ces choses. Alors que le Seigneur bénisse nos études et nous ouvre l'esprit à la compréhension de ces choses. Alors que le Seigneur nous bénisse pour le reste de cette semaine et nous ouvre l'esprit à la compréhension de certains sujets qui demandent de l'étude. Alors, que le Seigneur nous bénisse dans notre étude. Amen.